Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's meet in San Pinto House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous regardons de près le rapport annuel de Reporters sans frontières sur les journalistes tués ou détenus dans le monde. Et vous verrez que le chiffre de tués baisse, mais qu'il est préoccupant dans les pays en paix. Le bruit du monde, sans vouloir vous narguer, parle de métro à Belgrade. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de métro à Belgrade, justement, c'est là le problème. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier qui nous emmène en Inde. Et à Macao aussi, 20 ans après la rétrocession, 18h50, passons genre dans le monde. Et Julia Foyce avec un gynécologue flamand que je vous recommande. Une statistique, mariage cher, mariage par terre, figurez-vous. C'est une étude qui nous vient de Singapour. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers, signé Jean-Marc Four. Ou comment l'impeachment de Trump parle de président qui bafoue l'état de droit. Et il n'est pas le seul, le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Paulina Desmevel.
Bonsoir.
Porte-parole de Reporters sans frontières. Pardon, si on regarde la bouteille à moitié pleine, 49 journalistes tués cette année, c'est moins que les années précédentes où le chiffre était extrêmement haut, pouvait avoisiner les 80. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de journalistes au fond sur les terrains les plus dangereux.
Exactement. En fait, ce chiffre de 49 journalistes tués en 2019 est une semi-bonne nouvelle.
En fait, ouais.
Trompeur, bien sûr, révèle plusieurs tendances en fait qui sont assez frappantes. D'une part, effectivement, on peut se réjouir, c'est toujours 49 journalistes
bien
de
sûr.
Trop, mais on peut se réjouir quand même que ce chiffre soit nettement en baisse, parce que c'est pas une petite baisse aléatoire, c'est vraiment une nette baisse. Mais il faut voir aussi que le chiffre est accompagné de nouvelles données, c'est-à-dire que 59% de ces journalistes qui sont morts sur le terrain le sont dans des pays en paix et non plus en guerre. Ce qui traduit donc le fait qu'il y a moins de journalistes qui vont sur le terrain dans les pays en guerre, les zones de conflit, et donc probablement moins à même de rapporter un témoignage du terrain. Et ça, c'est préoccupant.
Alors, on va y venir justement à ces pays en paix qui sont pourtant des pays extrêmement dangereux pour les journalistes. On verra pour quelles raisons. D'ailleurs, souvent, on cherche à s'en débarrasser, ce qui est souvent, parfois, en tout cas différent dans les pays en guerre. Un mot quand même sur ces chiffres de pays qui sont toujours en guerre, ce sont les journalistes locaux qui meurent et qui prennent le plus de risques. Ça veut dire aussi, et là aussi c'est un chiffre derrière les chiffres, que les journalistes occidentaux, les journalistes internationaux n'ont plus accès à de plus en plus de zones au fond. Je pense à la Syrie, je pense au Yémen, l'Afghanistan d'une certaine mesure aussi. Il y a beaucoup d'endroits où on ne va plus. C'est aussi ça que dit ce chiffre derrière le chiffre.
Absolument, c'est ce que en fait traduit ce chiffre. Bien sûr, on pense que les journalistes locaux, les fixes qui sont journalistes, les journalistes locaux sont plus aguerris, probablement plus confrontés au terrain depuis plus longtemps, ou probablement aussi plus liés, en tout cas éduqués par des journalistes internationaux qui ont aussi permis aussi de les confronter aux risques. Mais ce qu'on a vu par exemple à la frontière syrienne-turque au mois d'octobre et ce retrait de journalistes, cet appel en fait de plusieurs journalistes qui malheureusement devaient quitter le terrain après l'offensive turque, témoigne de ce phénomène, c'est-à-dire qu'il faut quitter le terrain, s'exposer inutilement, ça n'en vaut pas la peine, donc il vaut mieux partir, même à regret, et malheureusement ça veut dire des zones qui sont moins bien couvertes, non pas que les journalistes locaux travaillent moins bien, mais c'est plus difficile de faire sortir l'information.
Et vous disiez d'ailleurs, vous mettez l'accent sur le Yémen dans ce rapport, où là, les journalistes renoncent, ne sortent de ce métier, parce que effectivement c'est très différent, et c'est très dangereux d'y être pour eux.
Absolument, en fait, les chiffres sont quand même encore très éloquent en Syrie, au Yémen, en Afghanistan. Même si ces zones sont beaucoup moins meurtrières que les années précédentes, il y a quand même 17 journalistes qui ont été tués dans ces trois pays en 2019. Alors, il y en avait 34 l'an dernier. Évidemment, c'est un constat qui est meilleur puisque le chiffre est en baisse, mais ça n'empêche que ces 17 journalistes qui sont toujours sur le terrain et qui ont trouvé la mort en exerçant cette profession.
Avec quand même des gens, vous le soulignez aussi, qui sont souvent mieux formés, mieux équipés, mieux préparés. Et je le souligne d'autant que dans le comptage que vous faites, vous comptez évidemment les journalistes, nous en France on dirait encartés, ceux qui appartiennent à des grands médias, etc. Mais pas seulement, les journalistes indépendants évidemment, et les gens qui travaillent sur le terrain, qui ne sont peut-être pas estampillés, on y mettra des guillemets journalistes, mais qui qui font ce travail-là et que bien sûr vous comptabilisez aussi dans vos dans votre rapport annuel.
Absolument. On parle en fait quand on évoque les chiffres des journalistes otages, emprisonnés ou tués, en fait on parle de toutes ces catégories de journalistes, les journalistes citoyens, sans lesquels bien sûr des informations ne nous parviendraient pas. On peut parler des emprisonnements en Chine qui sont évidemment tout à fait qui sont ou qui visent en tout cas ces journalistes de ces médias citoyens. Donc on englobe toutes les catégories de journalistes parce qu'en fait tous contribuent à faire connaître l'information et à transmettre ces informations du terrain qui sont précieuses.
Alors vous parliez des journalistes tués dans les pays en paix, il y a des chiffres qui sont très éloquents, il y a notamment celui du Mexique, enfin il y a des endroits où il est extrêmement dangereux d'être journaliste, et on parle pas seulement des cartels, on parle de corruption, on parle de ceux qui gênent en fait dans des pays comme cela.
Absolument. Alors le Mexique est très éloquent, le chiffre est aussi élevé que l'an dernier. Ce sont 10 journalistes qui dérangent, 10 journalistes qui enquêtent sur la corruption, 10 journalistes qui enquêtent sur la drogue et qui sont assassinés sauvagement. On le déplore, chaque mois apporte son lot de journalistes tués, c'est terrible. Il y en a 2 au Honduras également. Donc c'est un pays en paix, une démocratie avec un constat vraiment funeste, en fait, c'est terrible. Mais c'est aussi, ce pays traduit aussi une autre tendance qu'on voit se développer ailleurs. À Reporters sans frontières, on a beaucoup parlé des problèmes que rencontraient les journalistes d'investigation dans notre dernier classement. Et là, on voit aussi que ces journalistes qui enquêtent, qui s'organisent, qui sortent des données, qui enquêtent sur la corruption et qui cherchent à faire connaître des vérités, sont assassinés. Il y a 2 ans, à Malte, l'assassinat de Daphne Caruana Galizia a créé un émoi mondial au sein de l'Europe.
Et l'affaire continue d'ailleurs aujourd'hui. On la suit, nous, grâce à Forbidden Stories, on peut les suivre. C'est cette organisation qui refait les enquêtes des journalistes qui soit été empêchés, emprisonnés ou tués. C'est le cas notamment du cas Daphné, effectivement.
Absolument, voilà. On essaye également à Reporters sans frontières de créer des réseaux de journalistes, de faire en sorte qu'ils puissent partager leurs informations et qu'elles soient comme dans des coffres forts. Mais clairement, ce sont des journalistes qui sont visés parce qu'on sait en fait leur capacité à s'organiser et leur capacité à faire connaître la vérité. Il y a eu le cas aussi de ce journaliste slovaque qui dérangeait les mafias et qui a été sauvagement assassiné il y a 2 ans.
Et ce qu'il faut souligner dans ces cas-là, c'est le cas du Mexique, mais puisque vous avez évoqué Malte, l'assassinat date d'il y a 2 ans maintenant, mais c'était le même genre de problématique. Il y a des ramifications au plus haut niveau de l'État. Il y a une impunité aussi qui court évidemment dans ces pays-là, particulièrement le Mexique. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a au fond pas d'état de droit autour de ces cas-là.
Absolument. Alors, c'est une des missions de Reporters sans frontières, c'est justement de lutter contre l'impunité, et pas seulement le 2 novembre, mais toute l'année, de faire en sorte qu'il y ait des résultats, qu'on ne puisse plus assassiner les journalistes en toute impunité, qu'on ne puisse plus assassiner les journalistes et se frotter les mains. Ce qui se passe à Malte est très éloquent. On a mené une campagne extrêmement forte sur le terrain, avec beaucoup de déplacements sur place, beaucoup d'échanges avec les autorités, parce que c'est très important, et aussi beaucoup de demandes, l'enquête publique indépendante, pour savoir qui, en fait, en tout cas, si Daphne Caruana Galizia aurait pu éviter la mort. Et voilà, maintenant, on demande à ce que les autorités laissent l'enquête se dérouler, et qu'on puisse connaître la vérité. Il y a eu quand même des grands changements au mois de novembre. Il faut espérer que si le Premier ministre reste en place jusqu'au 10 janvier, comme il l'a dit, qu'en tout cas d'autres vérités sortent.
Alors, Pauline Adès-Mével, quand même, alors Malte est un pays européen, donc on peut imaginer qu'il y a une forme de pression qui peut s'exercer, que peut-être on finira par trouver une clé dans cette affaire-là, peut-être qu'on en prend le chemin. Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le Mexique ou comme le Honduras? Est-ce que vous avez le sentiment que, même en le disant, même en le criant, même en refaisant des affaires, est-ce que vous avez le sentiment réellement que les choses bougent, que les choses avancent? Est-ce que vous faites peur un peu, vous et d'autres organisations comme RSF?
Alors, toutes les organisations comme RSF, mais RSF en tout cas est vent debout pour soutenir les journalistes, en fait font un travail de plaidoyer énorme tout au long de l'année, discret ou moins discret, et s'adressent aux États, et puis surtout demandent des comptes en fait, demandent des protections aussi. Nous avons aussi poussé un dossier, c'est la création d'un mandat de représentant spécial auprès du secrétaire général de l'ONU, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un en charge de la sécurité des journalistes. Donc on demande des comptes, on fait connaître connaître ces vérités, on pousse des coups de gueule parfois, et en fait, on lutte contre cette impunité de façon à ce que ailleurs, si finalement on n'y arrive pas au Mexique, mais peut-être ailleurs, qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé, qu'on ne peut plus assassiner des journalistes dans les mêmes conditions.
Alors, ni assassiner, évidemment, ni emprisonner. On n'est pas très surpris des chiffres que vous nous donnez. Je pense à la Turquie, par exemple. C'est intéressant de pointer des pays comme la Chine, comme le Chili, comme la Bolivie, qui sont des pays qui sont en pleine éruption en ce moment, comme évidemment la Chine aussi, avec là des chiffres de journalistes emprisonnés qui restent des chiffres impressionnants dans ces pays-là. On a l'impression que ça ne bouge guère, en fait.
Alors, effectivement, pour les journalistes emprisonnés, le chiffre est extrêmement important. 389 journalistes emprisonnés cette année. Je vous rappelle qu'on compte dans les emprisonnés des journalistes qui n'ont pas fait quelques heures de garde à vue. Ce sont des journalistes qui restent. Donc, c'est pas un passage momentané en prison, et c'est terrible. Donc, le chiffre est extrêmement élevé, plus élevé que l'an dernier. Et en fait, un des chiffres les plus éloquents, c'est le chiffre de la Chine. Il y a 120 journalistes emprisonnés aujourd'hui en Chine, 60 l'an dernier, donc le double. Et en fait, ça témoigne de la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Un régime plus répressif, plus strict, une censure, une surveillance extrêmement accrue que à Reporters sans frontières nous dénonçons tout au long de l'année, et qui conduit ces fameux blogueurs, ces journalistes citoyens qui cherchent à faire connaître la vérité, qui cherchent à parler par exemple du sort des Ouïghours, de ces camps de détention en Chine.
Dont on a parlé, pardon, ici à Un jour dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est ce chiffre que vous dites, effectivement, 40% des journalistes emprisonnés en Chine ne sont pas des journalistes professionnels. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est ceux qui cherchent à faire sortir la vérité, mais ça veut dire aussi que dans ce genre de pays-là, il n'y a rien à attendre, au fond, des autres, c'est-à-dire d'une presse officielle, et c'est le cas, encore une fois, de la Chine, mais peut-être aussi de la Turquie et d'autres pays aussi.
Alors, il est surtout de plus en plus difficile de faire sortir les informations de façon officielle. Alors, il n'y a pas seulement des journalistes encartés. Bien sûr, il y a des journalistes qui travaillent pour des médias indépendants et qui ne sont pas forcément des blogueurs ou des journalistes citoyens. En tout cas, il y a une volonté de témoigner et vraiment de prendre des risques. On voit même des journalistes qui sont allés enquêter sur ce qui se passe en Chine, qui reviennent dans leur pays d'origine et qui sont sous pression une fois rentrés dans leur pays d'origine parce qu'ils ont révélé certaines vérités. Donc, c'est vraiment, en tout cas pour la Chine cette année, c'est vraiment un constat extrêmement inquiétant, et on a vraiment voulu le mettre en avant.
Est-ce qu'on sait, je ne vais pas vous piéger, est-ce qu'on sait quel est le journaliste en prison depuis le plus longtemps, par exemple, dans le monde? C'est qui?
Alors vous m'avez piégé.
Ah ben pardon. Pouf pouf, on pourrait couper au montage, mais on ne peut pas, nous sommes en direct. Il y a un autre chiffre avec lequel je voudrais revenir avec vous, Paulina Tesmevel, ce sont les otages. On en parle moins, et on en parle moins parce qu'on regarde tous un petit peu trop sur le paillasson, sur le pas de notre porte, probablement parce que des journalistes occidentaux qui sont en otage, il n'y en a plus, fort heureusement, pour ce qui nous concerne, mais il y en a plein d'autres encore. Et aujourd'hui encore, moi je le découvre en lisant votre rapport, c'est toujours le groupe État islamique qui détient le plus de journalistes emprisonnés.
Absolument, le chiffre aussi est très élevé, donc 57 journalistes otages. Je crois que l'information la plus importante, en fait, c'est que 57 journalistes otages, dont aucun libéré cette année. Donc c'est ça qu'il faut déplorer. Effectivement, la Syrie, mais l'État islamique aussi. Et effectivement, il y a des journalistes dont on entend parler. Il ne faut pas les oublier et nous devons absolument rapporter ces informations au fur et à mesure de l'année. Demander et continuer notre travail de plaidoyer comme on le fait pour les journalistes emprisonnés. C'est très très important qu'ils ne soient pas oubliés, c'est très important pour les familles aussi de montrer qu'on est là derrière eux.
Des journalistes de quelle nationalité le plus souvent, qui sont toujours prisonniers de l'État islamique?
Alors des journalistes en tout cas du Moyen-Orient pour la plupart, dont les nationalités sont des journalistes, et il y a des Américains qui sont détenus sur place, mais effectivement ce sont plutôt des journalistes de la région dont on a le plus grand mal à connaître, au sujet desquels on a le plus grand mal à avoir des informations.
Moi j'ai appris en vous lisant qu'il y avait notamment un jeune Américain qui s'appelle Austin Tice qui a été enlevé le 14 août 2012, dont personne n'a de nouvelles et dont personne ne parle jamais.
Oui, Reporters sans frontières est en contact de façon permanente avec sa famille. Nous menons des campagnes aux États-Unis, notre bureau est extrêmement actif à Washington pour continuer pour ne pas oublier en fait Austin Tice. C'est très très important. Je vous rappelle qu'il y a le Britannique aussi, John Cantley, sur le terrain. Donc c'est en fait ce travail, et il faut espérer et il faut surtout montrer qu'on ne peut pas enlever les journalistes, on ne peut pas en faire des autres. otages et puis se frotter les mains et qu'ils seront oubliés.
Parce que là, zéro nouvelle, autant que je sache, en tout cas.
Zéro nouvelle. Il y a eu quelques vidéos il y a quelques années, à prendre avec beaucoup de précautions aussi, bien sûr. Et puis, dans le cas de John Cantley, une manipulation aussi, bien sûr, puisqu'il a été utilisé. Donc, beaucoup de précautions de façon à être le plus efficace possible avec ces cas.
Et toujours, alors c'est toujours le cas de nous quand nous avions des otages. C'est aux États-Unis, les choses sont très claires. On n'en parle jamais, on ne dit rien à n'importe quel niveau de l'État, parce que j'ai cru comprendre que la famille d'Austin Tice, par exemple, avait essayé de prévenir, essayé de secouer un peu les autorités américaines. Ce sont des choses qui n'ont aucun poids vraisemblablement, qui ne fonctionnent absolument pas avec l'État américain en tout cas.
C'est très difficile et justement, c'est tout un travail diplomatique. Alors un travail de plaidoyer, un travail de diplomatie à faire avec les autorités. À quel moment il faut parler, à quel moment il faut révéler les informations qu'on a et à quel moment il faut... C'est extrêmement difficile pour les familles d'accepter le silence, sachant que, évidemment, chaque jour qui passe est un jour de trop.
Ouais, c'est autant de choses qui sont importantes à rappeler tous les ans, à aller lire ce rapport qui est accessible, évidemment, sur le site de Reporters sans frontières. Pauline Adès-Mével, porte-parole, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et la suite d'Un jour dans le monde, c'est le bruit du monde et celui du métro de Belgrade, figurez-vous. Enfin le train, parce qu'à Belgrade, il n'y a pas de métro, c'est même la seule ville européenne dans ce cas, et ça laisse songeur en ces périodes difficiles. Le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier, avec des manifestations qui enflent en Inde.
Oui, contre la loi sur la citoyenneté, une loi anti-musulman.
Pas son genre dans le monde, et Julia Foyce. Julia, je vous laisse prononcer la phrase de la semaine.
Allez, collecteurs, vous allez adorer. Le problème avec les femmes, c'est qu'aujourd'hui, elles ne veulent plus écarter les jambes.
Voilà, c'est un médecin belge et on fera sa connaissance. Il est flamand. Le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Hello.
Est-ce que certains présidents en exercice...
Oui, oui.
À chaque fois, ça le met dans un état, ce pauvre Jean-Marc. Certains présidents en exercice bafouent l'état de droit.
Oui, oui, ils s'en moquent. C'est comme Trump de la procédure de destitution. Mais c'est vrai, à quoi bon s'embêter avec l'état de droit, franchement.
Et on verra ça ensemble. À tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le royaume encore uni. Voici Papa sur France Inter. Alini, tiens, ça va pas nous remonter le moral, je vous le dis. ce soir. Ne le prenez pas mal. Si vous êtes en région parisienne, on va parler métro à Belgrade. Car Belgrade n'a pas de métro. C'est une promesse électorale vieille de plusieurs décennies. Et, eh bien, rien. Mais voilà que revient un projet possible en partenariat avec les Chinois et les Français. Et désormais, c'est autour du très controversé méga-projet Belgrade sur l'eau que pourraient se dessiner les différentes lignes de métro. Et c'est Louis Seyé qui vous emmène.
Tableau d'affichage, escalator, annonce haut-parleur, la station souterraine de Vukovspomenik en plein centre de Belgrade a tout d'une station de métro et même le nom. Pourtant, ce n'est pas le métro qu'attend Nevanka sur un banc, mais seulement l'un des rares trains régionaux.
Le métro, c'est un excellent projet. Il faut seulement qu'il se termine. Ce serait bien si nous avions plus de possibilités pour nous déplacer. Avec le métro, vous avez des lignes que vous atteignez plus rapidement. C'est plus confortable et c'est chauffé en hiver.
Avec presque 2 millions d'habitants, Belgrade est l'une des rares capitales européennes à ne pas disposer d'un réseau de transport rapide. Pourtant, un projet de métro existe depuis plus de 80 ans, mais il n'a jamais dépassé le stade des promesses électorales. Sur l'un des boulevards les plus embouteillés de la capitale, Stéphane saute du bus pour se rendre à la fac d'économie. Pour lui, comme pour beaucoup de Belgradois, le projet de métro, c'est encore un peu flou.
Oui, j'ai entendu parler de ce projet, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais pour ceux qui vivent de ce côté-là de Belgrade, ce serait bien. Mais je ne m'intéresse pas trop à la politique, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Disons que les grandes villes ont besoin d'un métro.
Habitué des slaloms derrière les vieux bus de Belgrade, Zoran Bukvic a fondé l'ONG Des Voies pour les Vélos. Il se bat pour libérer sa ville des véhicules polluants. Mais ce n'est pas vraiment la priorité des autorités serbes qui ont entamé d'autres chantiers un peu plus tape à l'œil.
Maintenant, nous sommes au niveau du projet Belgrade sur l'eau, qui se construit tout autour de nous. On peut voir de grands gratte-ciel et une vaste zone de chantier. Avant, ici, il y avait une gare ferroviaire et aussi une gare routière. Du point de vue de la circulation, ce projet est en train d'étouffer Belgrade.
Lancé en 2015, le projet pharaonique Belgrade sur l'eau transforme radicalement le centre de Belgrade. Estimé à 3 milliards d'euros et financé par les Émirats Arabes Unis, ce complexe de résidences de luxe et de commerce va aussi fortement impacter une circulation déjà compliquée dans la capitale serbe, Zoran Bukvic.
Les estimations parlent de 20 000 véhicules qui vont sortir d'ici chaque jour. Si nous n'avons pas de métro, la circulation sera un désastre à cause de ce projet. Mais personne n'a pensé à cela parce que tout le monde voulait faire de l'argent facile et le plus rapidement possible.
Le collectif citoyen né d'Avimo Beograd, ne laissons pas couler Belgrade, se mobilise depuis des années contre ce projet. Dobrica Veselinovic est l'un de ses porte-parole.
Avec ce projet, nous avons compris que la position de la ville allait rapidement évoluer en faveur des gros investisseurs et des gros sous. Et que les demandes et les problèmes des citoyens ordinaires seraient mis de côté.
Avec le projet Belgrade sur l'eau, le tracé des deux lignes de métro a été repensé. C'est désormais ce quartier de luxe qui est au centre de la carte. Des choix très éloignés de l'intérêt des Belgradois, qui n'ont pas vraiment eu leur mot à dire, comme l'affirme Dobrica Veselinovic.
C'est devenu une habitude de la part de la mairie ces dernières années. Ils empêchent toute discussion sur le moindre problème. Il n'y a plus de consultation publique, il n'y a absolument aucune participation des citoyens dans les différents projets de la ville.
La relance du projet de métro suscite la convoitise des investisseurs. Entreprises chinoises et françaises sont sur le coup de ce chantier estimé à 4 milliards d'euros. Après la visite d'Emmanuel Macron cet été, une déclaration commune a été signée entre les gouvernements serbes et français. La municipalité a même annoncé le début des travaux pour fin 2020. Reste à voir si ces annonces seront mises en œuvre après les élections législatives serbes, prévue au printemps prochain.
Essayez pour le reportage qui nous donnera des nouvelles donc du métro de Belgrade. Merci beaucoup et à très vite. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, ça donne ça. Et vous nous emmenez en Inde, ouais. Amélie Perrier, où les manifestations prennent de l'ampleur contre un projet de loi très controversé du gouvernement.
Et encore aujourd'hui à New Delhi, des cortèges partout dans le pays d'une ampleur rarement vue ont envahi les rues. Cela fait une semaine que des protestataires contestent la loi sur la citoyenneté. Le texte facilite en fait l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés venus d'Afghanistan, du Bangladesh ou du Pakistan. Mais à la condition qu'ils ne soient pas musulmans. Écoutez Arjit Ashad Qureshi, fondateur d'une association musulmane au micro de la chaîne ANI. On est prêt à soutenir le gouvernement sur n'importe quel projet de loi, dit-il. Mais s'il harcèle les musulmans au nom de leur religion, on ne le tolérera pas. Les groupes musulmans vont lancer un mouvement massif contre ces réformes, dit-il. Rappelons que le Premier ministre Narendra Modi est le chef des nationalistes hindous, que depuis son accession au pouvoir, il promeut la supériorité des hindous sur les minorités du pays, en particulier sur les musulmans. Ces derniers jours, les autorités ont coupé Internet et usé de la force pour disperser les manifestations un peu partout dans le pays. Les musulmans dénoncent une discrimination et dans le nord-est du pays, d'où est parti le mouvement, les habitants ont manifesté par peur d'un afflux de réfugiés hindous venus du Bangladesh voisin. L'équilibre intercommunautaire y est très fragile là-bas. Les étudiants ont rejoint les marches ces derniers jours. On parle de centaines de blessés à cause de la répression violente des forces de l'ordre, ce qui pourrait encore accroître le mouvement.
Allez, on en parlera longuement d'ailleurs après-demain jeudi dans Un jour dans le monde de cette loi et ses conséquences. Nous partons pour Macao. Amélie qui prépare une grande fête.
Macao célèbre cette semaine le 20e anniversaire de sa rétrocession. Ancienne colonie portugaise, elle est retournée dans le giron de la Chine le 20 décembre 1999. Alors je vous ai retrouvé une archive de l'époque sur l'INA, le journal de France 3, et dans un reportage, cette interview du vice-gouverneur de Macao.
Personne n'obligeait les Chinois à nous promettre le respect du libéralisme économique ou des droits de l'homme. Ils auraient pu nous pousser dehors. Nous n'avons aucune raison de penser qu'ils ne tiendront pas parole.
Et depuis ce 20 décembre 1999, il semble que les Chinois aient tenu parole. Macao, capitale mondiale des casinos, seul territoire chinois où les jeux d'argent sont autorisés. Son PIB a explosé. Il est passé de 6,5 milliards à 55 milliards de dollars en 20 ans. Ces casinos rapportent en une semaine ce que Las Vegas engrange en un mois. Et Macao, c'est l'élève modèle. Contrairement à Hong Kong, la rebelle. Une trentaine de kilomètres séparent les deux territoires, rétrocédés à la Chine à 2 ans d'intervalle. Mais alors que Hong Kong s'embrase depuis des mois, Macao, la docile, est une oasis de calme. La contestation pro-démocratie est très contenue. Les habitants se contentent en fait de profiter de la manne financière des casinos. Macao recevra la visite du président Xi Jinping vendredi pour l'anniversaire où il devrait répéter que Macao est le modèle de réussite dont devraient s'inspirer les Hongkongais.
Allez, de l'art pour terminer, Amélie, avec ce fameux fruit scotché au mur.
Vous avez certainement vu cette banane fixée au mur, une œuvre de Maurizio Catlan exposée au début du mois à la Foire d'art contemporain de Miami, vendue 120 000 dollars à un collectionneur français et mangé par un autre artiste. Ici, c'est David Datuna qui prévient que ce qu'il est en train de faire est une performance artistique. L'artiste a faim, dit-il. Il dévore cette banane devant les visiteurs de Miami, médusés, amusés aussi. La banane a été remplacée depuis, c'était prévu dans le certificat d'authenticité. Et si je vous en reparle ce soir, c'est parce que ça a donné des idées à d'autres. Un vendeur de fruits à Singapour a scotché au mur un durian. C'est un fruit que vous connaissez peut-être si vous avez voyagé en Asie. C'est une grosse boule verte, oui, recouverte de picots et surtout, évidemment, cette odeur insupportable. Nauséabonde, les Asiatiques en raffolent. Et le vendeur a de l'humour, il a fixé le prix de son durian scotché à 120 000 dollars, comme l'œuvre de Catlan, avec un slogan parfait « Looks like art, smells like fart », que l'on peut traduire par « De l'art en apparence, l'odeur d'une flatulence ».
C'est génie beau, pur. Mais absolument, c'est beau, c'est fin, c'est subtil. Amélie Perrier, merci beaucoup, vous exactement. Revenez demain. Voici Otis Redding sur France Inter. La chanson s'appelle « Fa 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 » et je crois que ça parle de moi. Bam, 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 bam. Fa-fa-fa-fa et Otis Redding, voici Julia Foss.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia qui chaque semaine nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Julia, on commence avec le mot d'ordre de la semaine.
Oubliez le gris du ciel, l'horizon bouché de nos retraites et accessoirement celui de nos routes aussi. Oubliez le noir de la colère, le rouge de la grève et vos semelles usées d'avoir bien trop marché. Quant à celui qui blâme sa femme pour avoir mal rempli sa déclaration de patrimoine à sa place, oubliez-le, mettez-le de côté. Tout est calme, reposé. Entendez les clochettes. Tantina Bullet, je veux bien vous filer un petit peu de mon LSD, Fabienne, si vous voulez.
Oui, je vous en prie.
En tout cas, laissez-vous porter.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next
year. Comme ça, j'adore les gens Noël. Mais oui, laissez-vous pénétrer par l'esprit de Noël avec Judy Garland en fond sonore. Vous êtes en famille à décorer le sapin, vous êtes avec votre amoureux marchant main dans la main avec ses filles qui, dans ce lavomatique, s'échangent des regards brûlants et ces deux hommes-là qui s'embrassent langoureusement. Ah, et bonjour papy, bonjour mamie, bienvenue dans la nouvelle campagne d'H&M qui, pour les fêtes, met tout le monde en paix et tout le monde sur le même plan. Jeune, vieux, noir, blanc, l'important c'est qu'on s'aime, homo, hétéro, qu'importe, on est tous les mêmes. Je sais, ça fait un peu Yannick Noah, bisounours et mou du genou, dit comme ça, mais ça n'est pas rien, cette pub, le géant de l'habillement suédois marque clairement son engagement en faveur d'une société plus inclusive. Son soutien à la communauté LGBT n'est pas nouveau, ça lui vaut à chaque fois autant d'applaudissements de la part des principaux concernés que de commentaires dégueulasses sur les réseaux sociaux. Le groupe a fini par les supprimer, tant il y en avait cette fois encore. Alors, à tous ceux qui sont choqués par les deux filles du lavomatique, ou ailleurs, on rappellera simplement que l'homosexualité n'est pas un crime, mais que l'homophobie, elle, reste un délit, et qu'il serait peut-être temps de se laisser pénétrer par l'esprit de Noël, évidemment.
Allez, on enchaîne avec votre champion de la semaine, pardon.
Oui. Ah mais oui, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Jeff Hoybergs, il est flamand, gynécologue, et il était l'invité d'une conférence organisée par une association étudiante, un tantinet conservatrice à l'université de Gand. Devant devant un public quasiment acquis, il s'est sans doute senti chez lui. Son intervention, c'est un festival de sorties toutes plus sexistes les unes que les autres, je vous en donne trois.
Allez-y.
Et la plus soft pour commencer. Les scientifiques sont principalement des hommes, car chez les femmes, il y a toujours leurs émotions médecins qui interviennent. Ah bah oui, tout ce qui est hormones, utérus, règles et compagnie, ça le connaît, le gynéco, hein. Mais nous avons mieux. On leur a donné des machines à laver, des lave-vaisselle, des femmes de ménage, tout, jusqu'à ce qu'elles soient devenues inutiles. Surtout quand elles se lancent dans une carrière scientifique, je suppose. Si seulement elles acceptaient, Fabienne, de temps en temps, d'écarter les pattes. Mais non, c'est fini, ça dixite le pro du spéculum et des étriers, qui est aussi visiblement psychosociologue à ses heures perdues. Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais elles ne veulent plus ouvrir les jambes. Et c'est vrai, il a raison, on est quand même de sacrées connasses quand on y pense. Enfin, si parfois il nous arrivait de penser. En revanche, les caméras, elles ont tourné dans l'amphi, le discours a été filmé et posté sur Facebook. 1200 sans signalement au recteur de l'université qui a dû s'excuser, mais pas lui, pas Jeff Heuberg qui persiste et qui signe face à une journaliste de la télévision flamande venue l'interviewer. Tout ça, c'est à cause de MeToo, bah oui, affirme-t-il. Évidemment, hein.
Toujours la faute à MeToo.
Le problème, je le cite, hein, c'est que les femmes veulent une égalité, mais veulent garder les privilèges offerts par les hommes sans leur devoir l'élégance traditionnelle des bonnes femmes. Ça, ce n'est pas possible. Si vous regardez, par exemple, je cite toujours, hein, combien d'impôts payent les hommes et de combien de dîners au restaurant bénéficient les femmes, l'addition est très élevée. Un champion, on vous dit.
Allez, on termine avec l'adage de la semaine.
Plus cher ton mariage te coûtera, plus vite tu divorceras. C'est la conclusion d'une étude menée par les chercheurs de l'université de Singapour, intitulée « Les diamants sont éternels et autres contes de fées ». Elles mettent une sacrée claque à nos lâchers de colombe et à nos envies de calèche. Vous passez la barre des 11 000 euros la cérémonie, vous avez 1,3 fois plus de risques de divorcer. Surtout si vous vous trouvez mutuellement moche. Ouais, l'absence d'attirance physique semble être le deuxième facteur de risque, hein, pour que le mariage périclite. Alors oui, oui, oui. Quand on aime, en fait, on compte et on se mate. Non, on ne vit pas d'amour, d'eau fraîche et de cécité. Oui, vous êtes contente, Fabienne, de m'avoir invitée ce soir. Vive l'esprit de Noël.
Mais absolument. Pour vivre heureux, vivons éloignés, je dirais. Allez, merci madame et à mardi prochain.
À mardi.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est sans doute demain que Donald Trump devrait être mis en accusation pour abus de pouvoir par la Chambre des représentants, ce qui va donc ouvrir la porte à un procès en destitution devant le Sénat au mois de janvier. Mais le président américain a l'air serein, l'état de droit, c'est pas son problème. Et vous nous dites même que dans sa position, il a bien raison de s'en moquer, c'est votre monde à l'envers.
Et pourtant, la charge s'annonce cinglante. L'acte d'accusation est écrit noir sur blanc dans le rapport de 658 pages préparé par les élus de la Chambre des représentants, abus de pouvoir à des fins personnelles, entrave répétée à l'enquête. Pendant les auditions, on le rappelle, les témoignages ont été accablants, en particulier celui de l'ambassadeur Gordon Sondland. Les faits ne font donc guère de doute. Oui, Trump a abusé de son pouvoir, exercé un chantage sur l'Ukraine pour la forcer à enquêter sur le démocrate, son adversaire, Joe Biden. Le président américain a bafoué l'état de droit, mais il s'en moque éperdument. Et je vais vous dire pourquoi diable, en effet, ne s'en moquerait-il pas. Primo, il se considère comme au-dessus des lois. D'ailleurs, il l'a déjà dit. En tant que président, je fais tout ce que je veux. Nananananer.
Avec mes cheveux.
Deuxio, il a une armada d'avocats pour l'aider à contourner le droit. C'est comme ça, par exemple, qu'il a toujours réussi à éviter de publier ses revenus. Tertio, son parti étant renserré derrière lui, atteinte à l'état de droit ou pas, donc lors du procès au Sénat, le risque pour Trump est quasi nul de voir se dégager la majorité des deux tiers nécessaires à sa destitution. Enfin, last but not least, pour le faire en anglais, son électorat lui est fidèle à 92% et ça va même plus loin, sa cote de popularité dans l'électorat global remonte depuis quelques jours à 43%. Comme dans une citadelle assiégée où l'offensive de l'ennemi cimente, galvanise les troupes. Donc franchement, l'état de droit, pourquoi s'en soucier? On s'en fiche.
Mais alors, c'est pas seulement Trump qui raisonne comme ça, Jean-Marc. Il y a plein de dirigeants politiques qui raisonnent comme ça, comme lui, aujourd'hui.
Absolument. L'autre exemple flagrant, c'est Netanyahou, inculpé de fraude, de corruption, d'abus de confiance par un procureur qui, soit dit en passant, fut longtemps l'un de ses proches. Mm-hmm. Eh bien, non seulement le Premier ministre israélien s'en moque, mais il renverse le raisonnement. Il qualifie cette inculpation de tentative de coup d'État, rien que ça. Comme Trump, il se voit au-dessus des lois, il assimile toute attaque contre lui à une attaque contre Israël, voire contre le sionisme en général. Et jusqu'à présent, son électorat l'a suivi. Prenons Boris Johnson. C'est à peine mieux. Rappelons que fin septembre, le Premier ministre britannique a été sévèrement recadré par la Cour suprême unanime à Londres pour obstruction au travail du Parlement sur le Brexit. Atteinte à l'état de droit. L'électorat britannique l'a-t-il pour autant sanctionné? On connaît la réponse. Donc là encore, à quoi bon s'embêter? On pourrait multiplier les exemples. En Hongrie, les attaques de Viktor Orban contre la séparation des pouvoirs ne se comptent plus. En Inde, Amélie Perrier le rappelait tout à l'heure, le pouvoir de Narendra Modi cherche en ce moment même à remettre en cause la laïcité inscrite dans la Constitution en excluant les émigrés musulmans de la naturalisation. Son parti est derrière lui. Et on ne parle pas là de la Russie de Poutine ou de la Chine de Xi Jinping. Non, on parle là de de pays qui se revendiquent des démocraties. Mais les électeurs, pour la plupart, s'y désintéressent désormais de l'état de droit, donc les dirigeants auraient tort de se priver.
Donc la suite, c'est quoi ? C'est fichu ?
Il y a encore des recours. Première option, que les partis politiques se réveillent, réalisent en quelque sorte que leur petit calcul pour sauver leur siège menace les fondations même de la démocratie. Ça n'en prend pas vraiment le chemin aux États-Unis. Un peu plus en Israël, où son parti, le Likoud, s'interroge sur l'avenir de Netanyahou. Deuxième option, que le pouvoir judiciaire se dresse en rempart. Il est en train de le faire en Israël, on vient de le voir. Il l'a déjà fait à Londres, on l'a dit aussi. Il l'a déjà fait aussi en Inde, où la Cour suprême a manifesté régulièrement son indépendance ces derniers mois, en particulier sur les droits des femmes. Pas sûr qu'il le fasse aux États-Unis, où la Cour suprême est désormais composée de magistrats favorables au pouvoir en place. Cela dit, il y a quelques jours, une juge fédérale a quand même réaffirmé à l'intention de la Maison-Blanche, je cite, « Les présidents ne sont pas des rois, sic », fermez les guillemets. Il y a donc encore des garde-fous, mais ils sont fragiles face à des électorats qui ne voient plus vraiment l'utilité de la séparation des pouvoirs. Et puis, pour finir, j'ai envie de souligner un paradoxe. C'est que cette érosion de l'état de droit dans nos démocraties se produit au moment précis où, dans le monde arabo-musulman, au Liban, en Irak, en Algérie, etc., les sociétés civiles dans les rues réclament précisément plus d'état de droit, la fin de la collusion des pouvoirs. On peut quand même y voir en miroir un rappel salutaire sur l'importance des libertés, presque un rappel aux enfants gâtés que nous sommes.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On reste ensemble pour le 18-20 la suite avec un journal signé Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, manifestation unitaire. Et après, que dit la suite ? Appelez-nous 01 45 24 7000, il est 19h.